Francis De Clercq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'ESSEC. On va parler avec vous d'une question essentielle pour l'humanité, puisque vous avez écrit un ouvrage en 2011 qui s'appelle « Comment nourrir le monde ». Alors, on pourrait dire qu'avec la crise économique et financière dans la zone euro, on a peut-être éludé ces sujets. On pourrait rappeler que les chiffres avaient évalué à 1 milliard de personnes, la population dans le monde qui avait faim avant la crise. Et aujourd'hui, cette situation n'a pas changé. Vous aviez évoqué, vous, notamment des sujets sur la volatilité de ces marchés, comment peut-être aménager cette volatilité. Depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que dans cet environnement des matières premières agricoles, il y a eu des évolutions?
Oui, en effet, il y a eu des évolutions en termes d'organisation, puisque même au cœur de la crise, il y a eu un G20 agricole, et c'est la première fois que nous avons connu un G20 agricole qui a été réuni à Paris sous la présidence française du G20. Et il a été notamment décidé de mettre en place un certain nombre de mesures, à savoir une banque de données qui s'appelle AMIS, de façon à avoir une meilleure information sur les marchés, notamment des céréales, même s'il existait déjà un conseil international des céréales qui faisait des études, mais ça a été élargi à davantage de produits. Donc il y a des choses qui avancent, c'est un processus lent. Des choses avancent aussi en termes de régulation, puisque les marchés européens, peut-être serez-vous surpris, sont moins régulés que les marchés américains qui fonctionnent depuis 150 ans, alors que les marchés européens sont plus jeunes. Et là-dessus, il y a des expérimentations, notamment à Nice Euronext, pour ce qui concerne la France en particulier. Il y a une expérimentation qui est menée de façon à mieux connaître les opérateurs sur le marché du café, du cacao et du sucre. Et au bout d'un certain temps de cette expérimentation, eh bien, l'autorité peut-être des marchés verra s'il est nécessaire de l'élargir, si c'est possible de l'élargir, si c'est souhaitable.
Alors effectivement, quand on parle de ces marchés, on peut parler bien sûr des marchés américains, de Chicago, mais on peut parler de Londres et de Paris, ce ne sont pas les mêmes marchés.
Oui, vous avez raison de le souligner. Sur les marchés européens, en fait, la législation est nationale. Et donc, il y a autant de législations que de pays dans l'Union européenne, à savoir 27, alors qu'aux États-Unis, tout cela est unifié au sein d'une seule entité, d'une seule organisation, d'un
Alors,
seul régulateur.
justement, le livre que vous aviez écrit parlait de comment nourrir le monde. On a bien senti avec cette crise économique et financière assez importante, l'un des principaux problèmes peut-être était lié à la volatilité, à la forte volatilité parfois sur certaines matières premières agricoles. Et on voit bien les conséquences à la fois bien sûr pour les producteurs et puis en bout de chaîne pour les consommateurs qui ont du mal, enfin qui voient de temps en temps le prix du café, de leur paquet de café flambé ou du sucre. En l'occurrence, le sucre en ce moment est plutôt dans des prix qui ont baissé. Mais comment justement on peut évoluer sur ces questions de volatilité?
Alors, la volatilité des matières premières agricoles n'est pas un fait exceptionnel, c'est un fait naturel, on ne peut plus courant, ne serait-ce qu'à cause des variations climatiques. Et donc, les récoltes bougent, sont toujours, les prévisions de récolte sont toujours incertaines. Donc, la volatilité est naturelle. Ce qui est plus gênant, c'est une volatilité qui serait très importante avec des pics au contraire des creux très importants, parce que ça gênerait, si on a des pics, les consommateurs sont fortement. Ils sont meurtris hein, dans leur budget et dans certains pays. Et les pauvres, quels qu'ils soient, les pauvres ont des difficultés à se nourrir, car les pauvres, non, malheureusement, la pauvreté ne connaît pas de frontières. À l'inverse, si les prix sont trop bas, ben vous découragez la production, ce qui n'est pas non plus intéressant, puisque la production agricole est un processus long et ça aurait des conséquences à long terme. Donc en effet, c'est la volatilité en excès qui pose problème. Et c'est celle-là qui, si elle ne peut pas être gommée, doit être mieux gérée. Elle peut être mieux gérée par une meilleure information, donc une transparence de l'information, aussi bien sur les récoltes que sur les stocks. Elle peut être gérée au niveau des marchés par une forme de régulation dont on a parlé un petit peu déjà, à savoir les marchés américains encadrent mieux la volatilité que les marchés européens.
Alors, on pense aussi à d'autres solutions, notamment les questions liées au stockage. Alors, quand on parle de notre Europe, on a un souvenir sur le stockage du beurre dans des frigos, on ne sait pas où, en Europe. On n'a pas en tête que sur effectivement, c'est les céréales, sur un certain nombre d'autres matières premières agricoles, il y a eu aussi une telle organisation quelque part.
Et pourtant, il y a eu une telle organisation avec de nombreux stocks de céréales, aussi bien dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Mais vous l'avez souligné vous-même, ça coûte très cher. Hein. Et pourquoi avoir autant de stocks quand la production est abondante et ne manque pas? C'est quand il y a une crise, notamment avec une hausse des prix, qu'on s'aperçoit que ces stocks seraient utiles. Mais ces stocks sont très coûteux. Il y a eu aussi des stocks dans des produits comme le café que vous avez évoqué, mais les stocks physiques coûtent très cher. Les stocks de contrats à terme coûtent aussi cher parce qu'on peut spéculer contre. Et donc, ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, on privilégie moins cette voie, même s'il faut toujours des stocks de sécurité alimentaire. Et on n'a pas parlé de la Chine, mais la Chine a des stocks de sécurité alimentaire, bien entendu. Aucun grand pays ne souhaite avoir à faire face à des famines.
Alors, on voit des évolutions effectivement qui peuvent être, on parlait de volatilité, qui peuvent être importantes. On voit que la Chine, qui était sur le maïs par exemple, qui va importer du maïs alors qu'elle en exportait. Quand on imagine effectivement ce qu'il peut y avoir derrière, ça, on imagine très bien que les marchés vont être perturbés.
Oui, bien entendu. La Chine, et notamment son expansion, est une surprise. Ce qui est une surprise, c'est la hausse du niveau de vie, donc du pouvoir d'achat des Chinois, et avec une demande qui est beaucoup plus forte en viande. Or, un animal, c'est, je dirais pas, un porc ou un poulet, c'est de la céréale sur pâte, hein, si je puis dire, puisque ce sont des animaux qui consomment beaucoup de céréales. Donc en effet, il y a une surprise là et ça a contribué aussi à faire flamber les prix alimentaires en 2007, par exemple, et à nouveau un petit peu plus tard en 2010. Voilà, ça c'est une surprise. Et puis dans le même temps, malheureusement, l'offre, on a eu de mauvaises récoltes.
Alors justement, hein, quand on regarde un peu au niveau mondial, on voit bien sur les perspectives, même si on peut avoir des années, et notamment cette année 2012 plus calme, on pourrait dire peut-être que c'est lié à cette crise économique et financière aussi pour une partie. C'est la FAO notamment dit dans les 10 prochaines années, on va repartir sur cette demande. Alors on parle de la demande chinoise, on pourrait parler de demande indienne ou d'autres demandes. Ça veut dire qu'on va vivre avec cette volatilité ou qu'on va pouvoir... On parlait de la volatilité climatique, mais en dehors de cette volatilité-là, on va pouvoir améliorer un petit peu la visibilité sur ces matières premières.
Oui, je pense que la visibilité doit être améliorée sur les matières premières, notamment en ce qui concerne les récoltes et surtout les stocks, car une inconnue, ce sont les stocks. On évalue mal le stock détenu dans certains pays, que ce soit la Chine, la Russie et d'autres. Et vous l'avez dit en introduction de notre propos, c'est stratégique. Cette information est stratégique. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point les informations seront bien délivrées, seront bien transparentes. Et il ne suffit pas de connaître la quantité de stocks. On a affaire à des matières premières agricoles, des produits vivants. Si le stock est impropre à la consommation, c'est un réel problème. S'il est attaqué par des insectes, par exemple, ce n'est pas forcément marqué dans les statistiques. À ce moment-là, c'est impropre.
En conclusion, peut-être, c'est vrai que quand on pose cette question « comment nourrir le monde ?», il y a beaucoup de... si on faisait un micro-trottoir en sortant de cette interview, on verrait beaucoup de gens qui vont nous dire « c'est pas possible, on va pas pouvoir, il y a trop de monde sur cette terre, on va jamais pouvoir ». Et puis, il y a des producteurs, il y a un certain nombre d'intervenants qui disent « si, on peut, il y a des surfaces qui sont pas cultivées, il y a des possibilités, on peut produire mieux ». Le regard que vous avez, justement, c'était sur ces perspectives.
Eh bien, par rapport à cela, j'aurais deux points. Premièrement, du côté de la production, on sait produire plus. Et le problème, à mon avis, ne sera pas tant de produire plus que de bien savoir le gérer. Actuellement, la FAO estime que les pertes sont aux environs de 30%, au moins 30%. Le chiffre est pas très... Et le chiffre est conservatoire même. On pourrait peut-être aller plus loin. Et les pertes sont importantes entre la production, le stockage et l'acheminement des récoltes typiquement dans la plupart des pays du tiers-monde. En revanche, chez nous, dans nos pays développés, c'est du côté de la demande que se pose le problème, et c'est le deuxième point. Il y a beaucoup de gaspillage en termes de consommation. Déjà, la législation est très sévère et oblige à des dates de péremption pour certains produits. Bon, pour les produits frais, c'est évident qu'il en faut, mais vous avez des produits, par exemple comme les céréales que vous évoquiez, ce sont des produits qui ont une conservation très longue, on peut les garder très très longtemps, elles peuvent perdre leur saveur. Mais on pourrait peut-être alléger cela. Et que ce soit chez le distributeur, les commerçants, la législation impose aussi ces dates. Et chez le consommateur, il y a aussi du gaspillage. Nous pouvons réduire aussi le gaspillage chez nous. Et n'oublions pas, vous avez parlé d'un milliard de personnes, ou environ un milliard de personnes qui ont des problèmes de faim, de manque de nourriture. Mais nous avons aussi près de 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité. Donc d'inadaptation du régime alimentaire au mode de vie. Parce que les modes de vie ont changé. il y a là aussi à travailler en termes d'éducation.
Voilà, c'est pas simplement regarder d'un côté, mais regarder l'ensemble des sujets qui concernent la Terre, l'humain. Merci d'avoir fait le point avec nous, Francis de Clercq. On rappelle, vous êtes professeur à l'ESSEC. On rappelle le titre de cet ouvrage, « Comment nourrir le monde ». Il a été donc édité en 2011, réédité sous format poche. C'est que c'est effectivement un sujet important dont on aura l'occasion, bien sûr, de reparler. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.